Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je suis Sophie Montreuil, directrice de la recherche et de l'édition ici à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir ce soir. On est content que vous soyez là. J'ai le grand bonheur de vous présenter Marie-Lou Sainte-Marie, qui est la conférencière ce soir. Marie-Lou Sainte-Marie est agente de recherche au sein de mon unité, donc la direction de la recherche et de l'édition. Elle travaille pour BANQ au sein de cette unité depuis plus de 4 ans, depuis l'automne 2006. Marie-Lou est une spécialiste de la recherche, notamment de la recherche dans les fonds d'archives, surtout les fonds d'archives d'écrivains. L'automne dernier, donc c'est encore tout récent, elle a obtenu son doctorat en littérature de l'Université Laval. Dans le cadre de ses fonctions ici à Bibliothèque Archives nationales du Québec, Marie-Lou a été la commissaire de 5 expositions. La première en 2004 portait sur Gaston Miron. Il y a eu ensuite une exposition dans l'ordre sur le dramaturge Marcel Dubé, sur le poète Paul-Marie Lapointe, sur le poète et graveur Roland Giguère, et elle est maintenant la commissaire de l'exposition sur la contre-culture Manifestes et manifestations, qui est présentée dans l'ère de la collection nationale, qui est actuellement en cours et qui sera donc présentée ici à la Grande Bibliothèque pendant 1 an, donc jusqu'en janvier prochain. Marie-Lou, ce soir, nous présente une conférence qui complète, si on peut dire, et donc un complément à l'exposition que vous êtes invité à aller voir ce soir ou pour le reste de l'année, si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle va donc mettre en lumière quelques éléments en lien avec l'exposition, vous présenter quelques documents que vous allez pouvoir aller voir vous-même dans l'exposition et quelques documents complémentaires qui sont tirés donc des fonds et des collection patrimoniale de l'institution. Marie-Lou donc va prendre la parole, va faire sa conférence et ensuite vous serez invité à lui poser des questions. Vous pouvez soit vous présenter au micro que vous voyez de chaque côté, soit, puisqu'on n'est pas aussi nombreux, très nombreux, restez à votre place, peut-être vous lever et prononcer votre question pour que tout le monde l'entende. Marie-Lou va être ici vraiment pour répondre à toutes les questions qui vous viendront, donc après avoir entendu sa conférence. Voilà, je voudrais juste avant de lui céder la parole, d'une part la remercier de se prêter à cet exercice de diffusion publique, remercier aussi Julie Derouin qui est quelque part cachée dans le fond, qui est donc la chargée de projet qui a accompagné Marie-Lou Sainte-Marie dans le cadre de la réalisation de l'exposition. Julie Derouin travaille pour la direction de la programmation culturelle, qui est responsable notamment de la programmation des expositions dans notre institution. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Marie-Lou et je l'invite de ce pas à venir prendre la parole.
Bonjour. J'espère que mon rhume ne m'empêchera pas trop de parler. Ça fait 2 semaines que je me débat avec lui. Ce soir, je vous propose un survol de la contre-culture au Québec. C'est vraiment un survol, en partie qui est guidé par mes choix, par mes goûts, mais aussi par diverses contraintes, entre autres la contrainte de temps. Pour la contre-culture, la question des droits d'auteur a été assez épineuse. Et si j'avais eu beaucoup, beaucoup plus de temps, j'aurais pu libérer beaucoup plus de droits pour vous présenter beaucoup plus de documents. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de belles choses à voir ce soir dans la conférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a plusieurs mises au point que je veux faire. À la fois, c'est une photo de Ronald Labelle qui a été prise lors du Festival Pop de Manceau en 1970, qui a été un échec monumental. Les artistes ne se sont jamais présentés, mais le public a eu bien du plaisir, par exemple, comme vous pouvez voir. Alors, première mise au point, la contre-culture et les institutions. Je pense que travailler sur la contre-culture et sur ce projet d'exposition, ça a été vraiment une expérience un peu de j'ai pu constater les limites des collections d'une institution comme BANQ quand on parle de contre-culture. Parce que, évidemment, la contre-culture, par essence, c'est réfractaire aux institutions. La plupart des acteurs de la contre-culture ont donné, en tout cas, ils ont donné des petits bouts d'archives, mais on n'a pas tous les documents qu'on aurait pu avoir, ou qu'en tout cas que j'aurais pu espérer avoir dans l'exposition. Alors, c'est pas l'exposition idéale, rêvée. J'ai dû faire avec les contraintes des collections. Et c'est vraiment le sujet, je pense, à contre-culture là, qui impose ces contraintes-là. Plusieurs manifestations de la contre-culture ont été éphémères. Et donc, il y a eu beaucoup d'happening. Il y a sûrement des photos qui ont été prises, mais je n'ai pas trouvé, dans la plupart des cas, des photos. En tout cas, dans les collections de BANQ, il n'y en avait pas. Probablement que les photos sont... qu'il y a des photos, il y a des archives chez les créateurs, chez les acteurs de l'époque, mais je n'ai pas pu, j'ai pas pu les voir. Donc, il y a plusieurs événements que j'ai lu que ça avait existé. Je pense, par exemple, au spectacle multidisciplinaire « Le Zirmat » de Claude Péloquin, qui sont tenus dès 65, ou l'opération Déclic, par exemple, qui est avec les gens des arts visuels. Ça s'est tenu à la Bibliothèque nationale en 68. J'ai lu des témoignages dans les journaux, dans la Bible, la contre-culture, là, qui s'appelle « Québec Underground », où les auteurs ont compilé toutes sortes de documents pour témoigner de l'effervescence de ces époques-là. Mais je n'ai jamais pu voir de photos. Alors, c'est assez frustrant. Il y a plein d'événements que je vais évoquer ce soir, mais je peux pas vous en parler plus parce que j'ai juste pu avoir des bribes. Excusez-moi. Je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, j'avance un petit peu à tâtons. La deuxième mise au point, c'est sur l'acception contre-culture. Dans le langage courant, on associe toujours la contre-culture aux années 70. L'histoire culturelle nous a habitués à parler de contre-culture en parlant des années 70. C'est souvent les acteurs même de l'époque qui ont parlé de la contre-culture. Mais pourtant, je trouve important de dire que chaque époque a sa contre-culture. Il y a encore une contre-culture aujourd'hui. Elle est différente, évidemment, de la contre-culture des années 70. Mais chaque époque a cette culture qui juge la culture et sa société trop mercantile ou en tout cas trop conservatrice et qui essaie de s'opposer en créant d'une façon différente. Donc, ce soir, quand je vais parler de contre-culture, je vais parler des années 70, évidemment, pour qu'on puisse se comprendre. Je voulais faire aussi une petite mise au point sur la périodisation. J'ai retenu les années 68-75. Au Québec, ce sont les années qui vont de la création de l'Hostie de Chaux en 68, donc qui est un véritable événement détonateur et libérateur pour le Québec. Et donc, de 68 à 75, qui était la tenue de la rencontre internationale de la contre-culture qui s'est tenue en mai 75, entre autres à l'ancienne Bibliothèque nationale. Cette rencontre de la contre-culture a été organisée par Jocelyn Pagé et Jean et Serge Gagné. Cette rencontre a amené à Montréal des écrivains américains comme William Burroughs, Ginsberg ou John Giorno. C'était donc à la fois l'apothéose de la contre-culture au Québec, mais au moment même où la plupart des acteurs savaient que c'était la fin d'une époque. Effectivement, si la fin des années 60, ça marque vraiment un changement de paradigme socio-culturel. On sait que les sociétés occidentales vont vraiment changer de façon importante. Il y a un nouveau changement de paradigme qui se produit vers 75, on ne peut pas trancher. c'est difficile aussi de dire exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un nouveau changement. Il y a d'abord la fin de la guerre du Vietnam qui avait mobilisé beaucoup de gens, la jeunesse américaine dans les années 60. Il y a aussi la contestation se fragmente, le projet est moins commun. Les féministes prennent beaucoup d'importance, les homosexuels vont lutter de leur côté. Donc, il y a comme un fractionnement de la contestation qui se produit. 75-77, c'est sur le plan culturel, c'est le lancement de l'album des Sex Pistols. Donc, c'est le début du punk. Pour faire vite, on peut dire que le New Future Punk va succéder au projet communautaire hippie. J'aime pas beaucoup l'expression hippie, mais en tout cas, disons, je vais l'employer pour faire vite. Les valeurs pacifistes qui sont remplacées par une culture vraiment plus urbaine et plus agressive. Juste pour la petite histoire, Johnny Rotten, le leader de Sex Pistols, il a porté un T-shirt qui indiquait « I hate Pink Floyd ». Donc, c'était vraiment pour dire, on marquait une cassure profonde. Et toujours dans la petite histoire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous promenez sur Président Kennedy ou sur le boulevard Saint-Laurent, à peu près à la hauteur du métro Saint-Laurent, si vous regardez vers la rue Sainte-Catherine, il y a un édifice. Et sur le toit de l'édifice, à peu près, un édifice qui est tout près du Métropolis, il y a des grosses lettres blanches sur un toit, H-Y-H. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu, mais ça veut dire H-U-E-P. Et là, c'était une bande de punk. C'était, je pense, un lieu artistique. Et c'est la ville a gardé ce témoignage. Ben la ville, en tout cas. Pas la ville de Montréal, mais au sens institutionnel, mais la ville garde ses témoignages de changements aussi artistiques. L'autre mise au point que je voulais faire, c'était sur la définition de la contre-culture. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, sur l'exposition, mes collègues me demandaient souvent « Peux-tu me donner une définition de la contre-culture? » J'ai trouvé un petit peu tannante. Je me posais souvent cette question, mais je trouvais que ça m'a mis au défi. Je trouvais que c'était effectivement difficile de donner une définition claire. En fait, il n'y a pas de définition toute faite. Moi, pour l'exposition et pour la conférence de ce soir, j'ai décidé d'inclure dans la contre-culture des artistes qui sont souvent liés à l'avant-garde, qui revendiquent une nouvelle culture. C'est une expression qui était assez fréquente à l'époque. Donc, une nouvelle culture qui remet en question les valeurs établies et qui explore diverses formes d'expression par la manifestation, la performance, par des revues, des livres-objets et par des bandes dessinées. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter ce soir. La contre-culture, on peut dire qu'elle prend sa source dans l'Amérique prospère des années 50, avant même que les hippies s'installent à San Francisco, c'est déjà un lieu de contestation. Autour de la librairie City Lights, il y a une colonie d'écrivains, autour de Ferlinghetti, Burroughs, Kerouac, qui contestent l'éclat du rêve américain. Cette génération beat va montrer l'envers de l'opulente Amérique. Et c'est quand même le début d'une forme de contestation qui peut s'apparenter. En tout cas, c'est une forme de contre-culture déjà dans les années 50. Si le sujet vous intéresse, dans les archives de Radio-Canada, il y a tout un dossier sur le sujet, sur la génération beat. Il y a des belles archives sonores. C'est assez intéressant. Le mouvement contre-culturel appelle une transformation radicale de la société post-industrielle. Je dirais tout à la fois qu'il enclenche et accompagne les changements sociaux, politiques et culturels qui transforment les sociétés occidentales à partir du milieu des années 60. Pour un point de vue français sur la question, sur l'effervescence des années 60 et pas seulement sur le fameux mai 68, là, mais sur toute la période, vous pouvez consulter le site de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. Ils ont fait une exposition super intéressante sur les années 60. Donc, l'expo s'appelle les années 68, un monde en mouvement, un regard nouveau, nouveau regard sur une histoire plurielle. Et il y a beaucoup, beaucoup de documents d'époque. Donc, cette exposition-là est créée conjointement par la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine et la Cité des mémoires étudiantes. Alors, il y a beaucoup de... ce sont des organismes qui amassent des archives, des revues, des affiches. Et c'est une exposition qui est virtuelle, qui est assez bien faite, si ça vous intéresse. C'est le temps, vous pouvez tous tousser. Pour continuer un peu la mise en contexte, les années 60, début des années 70, c'est vraiment une époque qui est haute en couleurs. Il y a les Mary Prankers, je suis jamais capable de le prononcer, avec l'écrivain Ken Kesey, celui qui a écrit « Vol au-dessus d'un nid de coucou », qui sillonne les États-Unis à bord d'un autobus peint aux couleurs psychédéliques qui font la promotion du LSD. La jeunesse américaine sort dans les rues, mais pas juste la jeunesse américaine, au Québec aussi. Les sujets de contestation sont nombreux. Au Québec, j'avais mentionné au début de la conférence la création du Zirmat de Claude Péloquin, avec Jean Sauvageau et leurs amis, donc à partir de la moitié des années... à partir de 1965, pardon, ils créent des spectacles multidisciplinaires. Mais je n'ai pas trouvé... J'ai lu des témoignages, mais je n'ai pas pu voir d'images. Ce que Claude Péloquin écrivait en 67 dans son manifeste Infra peut peut-être donner une idée un peu de l'esprit du Zirmat. C'est la citation qui est à l'écran. Infra avec avant-garde ou pas, s'incorpore en tant que mouvement à la phénoménologie de recherche ancrée dans l'homme et sa civilisation. Infra se veut tout simplement, organiquement de son siècle et de là du à venir dans les autres. Je pense qu'être organiquement de son siècle, c'était vraiment, c'est pas mal l'idée de la contre-culture. La spectacularisation est une constante de la contre-culture. La création et la diffusion de cette nouvelle culture va passer vraiment par le décloisonnement des genres, par l'expérimentation, par la multidisciplinarité. Ça va passer par la performance, le happening, c'est vraiment très important. Parmi tout ce qui se crée et se fait au Québec, il faut aussi mentionner l'atelier d'expression multidisciplinaire, l'ATEM, qui était sur la rue Sanguinet et qui rassemble Patrick Straham, Gilbert Langevin, et Armand Vaillancourt. Avec la guerre du Vietnam et la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, la contestation va vraiment se radicaliser aux États-Unis. Je vous donne un exemple avec les Weather Underground qui vont émerger à partir de 1969 lors du dernier congrès du congrès national du Student for a Democratic Society. C'est un groupe vraiment radical. La plupart de ses membres vont passer dans la clandestinité. Et le nom de ce groupe-là... vient d'une chanson de Bob Dylan. Donc, vous avez le vert à l'écran. Donc, c'est un des exemples de cette radicalité. Là, c'est vraiment un mouvement politique et non artistique. Ils sont assez fascinants. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire vraiment très, très intéressant qui a été présenté à Télé-Québec il y a quelques années. Je suis sûre que c'est possible de le retrouver. « Donc, la contre-culture, c'est vraiment, pour moi, une créature bicéphale qui est travaillée par des forces contraires. D'un côté, il va y avoir les tenants de l'activisme politique, comme les Weather Underground et d'autres groupes. Et de l'autre, il va y avoir vraiment les chantres d'une libération intégrale de l'individu grâce à l'usage de drogues, à la spiritualité orientale ou à l'alimentation macrobiotique. Là, il y a vraiment deux tendances. Avec la contre-culture, la contestation et la marginalité vont être érigées en valeur. Et ce qui est assez fascinant, en tout cas je trouve, c'est la contradiction qu'on trouve dans cette contre-culture-là. D'une part, il y a un détournement de certains biens de consommation de masse, par exemple le blue jeans, qui était un vêtement d'ouvrier, qui va devenir le symbole de la jeunesse contestataire, en tout cas. Et aussi, la contre-culture, c'est peut-être, les mouvements, les jeunes des années, fin des années 60, début des années 70, c'est la première fois que qu'on utilise les possibilités qu'offrent, par exemple, la culture de masse, les médias, les spectacles rock. Donc, à la fois, on est marginal, mais à la fois, on cherche à rejoindre le plus de gens possible. Si vous avez vu l'exposition... Imagine, John Lennon et Yoko Ono qui se tenaient l'année passée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je trouve qu'il y a il y avait un bel exemple de cette dualité-là. À la fois, Yoko Ono qui était une artiste conceptuelle, Lennon qui s'est associé à elle. Quand ils ont fait leur campagne publicitaire, si on veut, War is Over, c'était à la fois un objet conceptuel, c'est une intervention artistique conceptuelle, mais en même temps, c'est de la publicité de masse. Donc, il y a ces deux aspects. Moi, je trouvais ça assez intéressant comme jeu. Donc, on revient au Québec. Raoul Duguay et l'Infonie. Qui est aussi, donc l'Infonie, qui est aussi un lieu de passage entre la culture savante et la culture populaire. Les musiciens de l'Infonie, ce sont des virtuoses, mais ils peuvent aussi bien présenter des performances à la nuit de la poésie, par exemple, et enregistrer des disques de musique vraiment savante, de musique minimaliste. Eux autres aussi, ils jouent sur les deux tableaux. L'Infonie est créée en 69. C'est un groupe qui est animé par le saxophoniste de jazz, le compositeur, le chef d'orchestre Walter Boudreau et aussi par le poète que tout le monde connaît, Raoul Duguay. L'Infonie, donc, c'était une formation multidisciplinaire qui alliait musique, poésie et art visuel. Et selon les circonstances et les lieux, elle pouvait compter de 4 à 22 musiciens. Je vais vous présenter un extrait de l'Infonie qui est tiré de l'album L'Infonie, volume
333. Voici l'espace et c'est ma chair, voici le temps et c'est mon sang, voici la terre et c'est mon corps. Regarde de d'où tu viens, écoute qui tu es, regarde de où tu vas, écoute ton chemin. Pour l'amour de l'amour, aime-toi tous les jours, pour l'amour de l'amour. Aime-toi sans détour, mon amour.
Raoul Duguay est sans conteste une figure marquante de la contre-culture au Québec. Moi, j'avoue que j'ai un solide penchant pour Raoul Duguay. Ses performances de poésie ont vraiment marqué toute une génération. Si vous avez écouté le film La nuit de la poésie 1970, vous avez pu voir la performance complètement déjantée qu'il a fait avec l'Infonie. C'est un moment d'anthologie. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez louer le film et ça vaut vraiment la peine. Dans l'expo, j'ai inclus Le seul film de Raoul Duguay, celui qui l'a réalisé en 72 avec l'ONF, s'appelle « Eau ou l'invisible enfant ». C'est un joyeux bric-à-brac poétique qui invite, et là c'est une citation de Raoul Duguay, à transformer le dehors par le dedans, en retrouvant l'émerveillement de l'enfant devant le monde, l'art et la vie. C'est un film qui est complètement impossible à résumer. En fait, il n'y a pas d'intrigue. Ce sont des moments poétiques, des flashs poétiques qui livrent dans un bouillonnement, là, un bouillonnement assez drôle à regarder maintenant. Mais c'est un film que j'aime bien. Et je trouve que c'est un beau témoin aussi du bouillonnement culturel des années 70. Et c'est pour ça que je l'ai inclus dans l'expo. Je vous invite à regarder les dernières minutes du film qui vont vous donner un aperçu de l'esprit du film. Si vous ne l'avez pas vu, là, il passe en boucle dans l'exposition. Alors, dans le film, les membres de l'Infonie vont faire des apparitions. Dans ce segment-là, on voit Paul Baillargeon qui est enchaîné à Raoul Duguay. On va voir le comédien Gilles Renaud et à la fin, en chef d'orchestre, c'est Walter Boudreau de l'Infonie.
Sur la terre, je te donne l'univers et les étoiles du ciel. Je commence en toi le monde que j'ai construit dans la joie. Tu me donnes à vivre enfin, je me donne à tout le monde. Et tout un chacun est toi. Quand je regarde une fleur, elle aspire à la lumière, elle sourit au soleil. Et c'est toi qui m'émerveille. Tu apprends à te connaître. Tu es entouré d'amour, et si tu deviens un homme, pense à moi souvent, toujours. Et si je regarde un homme, tu pleures sur son regard, tu es invisible en l'homme. Je veux la vie nouvelle qui est dans ma tête et indivisible, aussi dans tout le monde, et que l'on verra un jour.
Ce film-là, qui est un bel exemple de cinéma contre-culturel, est intéressant aussi parce que là, ce segment-là en témoigne absolument pas, mais il y a aussi un aspect politique dans le film. C'est fait après la crise d'octobre et il y a tout un discours caché qui dénonce aussi les événements d'octobre. Alors, il y a plusieurs dimensions dans le film. Là. C'est intéressant de l'écouter dans son ensemble. Côté théâtre, il y aurait plusieurs choses à dire. Le Grand Cirque ordinaire est sûrement un moment incontournable du théâtre au Québec dans les années 70. C'est un théâtre, donc, une troupe qui a été fondée en 69 par Raymond Cloutier, Paul Baillargeon, donc, qui était dans le film aussi de Raoul Duguay, Jocelyn Bérubé, Claude Laroche, Suzanne Garceau et Guy Tauvette. En 79, Raymond Cloutier écrivait à propos du Grand Cirque ordinaire. Le Grand Cirque ordinaire a commencé par un groupement d'acteurs révoltés pris dans un théâtre québécois en 68-69 qu'il considérait comme aliénant. Il ajoute « Cette révolte, qui était liée à toute la révolte de 1968 et à toute la montée assez folle de la jeunesse à cette époque, était aussi une volonté de libération, de retour aux sources de création et un besoin de communiquer directement avec le monde, sans passer par les schémas européens et bourgeois, c'est-à-dire des schémas préfabriqués de dramatisation. On voulait inventer un nouveau théâtre. Il y avait dans le mot « cirque » une question de piste, une question de risque et une question de communication populaire. » Et cette communication populaire que voulait explorer le Grand Cirque ordinaire passait notamment par la chanson. Il y avait certainement une influence du théâtre brechtien là-dedans. Et en 75, ils ont lancé un disque qui est joint au livre. Raymond Cloutier a publié en 2003, je crois, un livre avec les paroles des chansons, des pièces du Grand Cirque ordinaire. Et ils ont réédité le disque de 75. Non, ça donne un peu une idée des chansons qu'on pouvait entendre dans les pièces. Alors, je vais vous présenter un extrait c'est le prologue de la pièce « La tragédie américaine de l'enfant prodigue ».
Devenu prince du seul pays où tous les cœurs battent au même coup, nous avons changé les champs, les faces et la maison voyageuse qui nous a laissé vivre. Nous avons craqué l'orange ensemble et dessiné malgré nous des tapis. Quel est ce vent qui m'amena chez Dieu? C'était le printemps dans la chambre bleue flottant sur New York, Londres, Québec. Et sur toi, douce Angèle, Los Angeles perdue, tes cheveux gonflés dans la nuit électrique, des génies brodant nos rencontres sur les guitares de l'énergie retrouvée. La cendre et la misère ne parlaient plus, la clé des fées enfouie dans nos poches, retraçant sans cesse l'enfant content qui jamais ne nous avait rendu visite.
Encore là, si vous êtes intéressé par le Grand Cirque ordinaire, il y a un documentaire qui a été fait. Si vous pouvez mettre la main dessus, moi j'ai pas réussi, mais en tout cas, j'en avais déjà vu des extraits à la télé. C'est assez intéressant de voir leur. C'est fait pendant une tournée du Grand Cirque ordinaire. Si les années 70 riment souvent avec nationalisme, pour plusieurs poètes, il y a une nécessité aussi d'affirmer et de revendiquer ses racines américaines. L'exploration de la mythologie américaine, donc comme l'errance, l'urbanité, la marginalité, va caractériser certains artistes, dont Claude Péloquin et Lucien Francoeur. Et je vais vous présenter deux extraits qui sont assez représentatifs de cette veine-là. Et vous allez voir, ils ont fait le choix du mode de récitatif plutôt que chanter. Il y a un parallèle entre les deux façons de prendre la parole dans ces deux extraits-là. Le premier extrait, c'est « Monsieur l'Indien ». C'est un texte de Claude Péloquin, une musique de Jean Sauvageau, qui est vraiment le père de la musique électronique au Québec. L'album « Laissez-nous vous embrasser ou vous avez mal », c'est un album que j'ai découvert récemment. C'est un ovni. C'est vraiment très bon. Les textes, la musique, c'est... en tout cas, vous ferez vos propres découvertes, mais c'est assez... c'est une belle découverte pour moi, en tout cas. Et ça sera suivi du Freak de Montréal, du groupe Autre Chose, donc des paroles de Lucien Francoeur.
Là, je vous présente Monsieur l'Indien. En l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi pour demander la permission à Monsieur l'Indien de mettre un poteau à 20 pieds de son tipi. Monsieur l'Indien dit, « Ah, fait plaisir, monsieur. » Deux jours après, il s'en allait à la chasse pour sa famille. Je retourne de bord, puis il y avait un autre poteau à peu près 20 pieds à gauche. Oh, c'est pas grave, ils m'ont demandé la permission pour un, ils peuvent en mettre deux. On a de la place, ça, on a plein d'espace.
C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles. Un stéréo dans mon cerveau. J'ai lu l'hiver dans ma cuillère. C'était dans la semaine des trois jeudis. On a sniffé du patchouli. À l'avant de Mustang Sky Lolo. Puis elle avait pas de bouton dans le dos. On est dehors à Pink Floyd. On a mangé des hot dogs. On s'est rendu au septième ciel, le bon Dieu ça demande un rappel.
On change de sujet complètement. On passe à la poésie. Je continue mon survol. Pardon. On a vu tout à l'heure avec Raoul Duguay l'infonie, le côté ludique de la contre-culture. Mais il y a aussi la face sombre, entre autres avec les poètes Denis Vanier et José Yvon, qui est la fée des étoiles de Denis Vanier. Leur poésie est vraiment délibérément violente, férocement provocatrice et excessive. Dans « Lesbienne d'acide », en 72, Denis Vanier écrivait « Nous sommes les derniers espoirs de la poésie. Nous communiquons par voie de fait. » Denis Vanier, mort en 2000, né en 1949, publie son premier recueil « Je » en 1965. Il a été critique littéraire à Mémise et co-directeur de Hobo Québec. Dans la préface qu'il signait pour le recueil pornographique Délicatessen, publié en 68, Claude Gauvreau disait de Denis Vanier, « Denis appartient à cette génération de jeunes penseurs qui parachèvent exemplairement le saccage de tous les tabous. » J'ai décidé de vous présenter un extrait de Denis Vanier qui est tiré de la Nuit de la poésie 1970. Dans cet extrait, Denis Vanier lit un poème qui s'appelle « Allopolis » et qui va paraître en 72 dans le recueil « Lesbienne d'acide ». C'est un poème qui est dédié au poète et activiste américain John Sinclair, qui a été condamné en 69 à 10 ans de prison pour la possession d'un joint de deux joints de marijuana. Sinclair, il a été influencé par le Black Panther Party. Il est l'un des fondateurs du White Panther Party, une organisation non raciste radicalement à gauche qui prônait « Everything free for everybody ». Lennon a aussi écrit une chanson pour sa libération de prison.
Denis Vanier.
Ah, puis ça, c'est ma plus belle réponse. Ah, ouais. Ça s'appelle Allopolis. John Sinclair, ministre obscène des White Panthers, a été condamné à 10 ans de prison pour deux joints de marijuana. 10 ans. Plus que le maximum, Sinclair est une beauté dangereuse. Pour lui, ainsi que pour nous, la sexualité, les crises de nerfs tendres au toucher du corps doivent se faire dans la rue, en plein jour, devant ceux qui travaillent, fourrés par le fascisme de leurs préjugés, avec du rock'n'roll, de la dope et l'incroyable cinérama. Nous sommes tous porteurs d'un sacrement à contempler pour l'ultime libération des astres en nous. Les barbiers vénériens, les juges catholiques, alcooliques, nazis, Steinberg et son alimentation de cadavres chimiques, tous les orthopédiques et dégénérés qui cultivent leur poux dans des friches d'air atomiques, les cochons de la bécosse politique qui nous sodomisent l'état paranoïaque, doivent faire place à ceux pour qui le miracle de vivre n'est pas un arrêt d'autobus à 30 degrés sous zéro aliéné jusque dans ses claques. La vérité se passe à un doigt, explore ses dernières pentes d'ananas, et si tout est calme, appelle la police. Il nous faut tout saboter, s'attaquer délibérément aux skunks capitalistes par tous les moyens et à tous les niveaux de la création. Kraft fuck the cheese. Premièrement, le clitoris en tant qu'instrument d'insubordination. Deuxièmement, la vulgarité pour sa pureté et sa bonne odeur. Troisièmement, la connaissance mathématique subversive aux mains des enfants. Quatrièmement, la révolution pour la chaleur du body électrique écrasé, la fin du Chrysler impérial. La Platitude est un camp de concentration et l'argent, c'est le vol. Voler aux riches est un acte saint et sacré. Les enfants doivent voler l'argent de leurs parents car c'est pour eux le seul moyen de se libérer de la vie familiale. L'argent doit être utilisé comme papier à cigarette de marijuana. Legalize it because we'll take it in your blood. White French Canadian Panthers Party of Montreal.
José Yvon, de son côté, collabore à plusieurs revues contre-culturelles comme Mainmise, Au Beau Québec et Cucu. Ses recueils, Filles Commando Bandées et La chaîne de l'hôtel Tropicana, mettent en scène des filles mal tournées. Ce sont des danseuses échouées dans des bars miteux, des prostituées, des mal-aimées disloquées. Ce sont des héroïnes noires prête à terroriser l'esprit des bien-pensants. J'ai malheureusement pas d'extrait visuel de José Yvon, mais une citation tirée de Filles Commando Bandées vous montre l'esprit. Nous sommes absolus, vulgaires, obscènes, mal habillés. Nous vivons sous des néons intransigeants dans une ville de malades. Autre sujet, je passe vite, Cucu, à la fois une revue et une maison d'édition. C'est une revue créée en 73 qui dure 3 ans, de 73 à 76. Il est animé par Jean Leduc, par Yolande Villemaire et par Claude Beausoleil. Et c'est une revue qui s'amuse au jeu de la provocation, dans un style volontiers illisible, à la croisée de la contre-culture et de l'avant-garde formaliste. Ses collaborateurs parodient des textes universitaires et déboulonnent les monuments de l'institution littéraire québécoise. La poésie du pays, incarnée par l'Hexagone, va vraiment en prendre pour son rhume avec la revue QQ et les éditions QQ. Donc, ici, vous avez un exemplaire de la revue QQ et trois exemples de publications, donc fort différentes. Il n'y a pas de ligne directrice esthétique aux éditions QQ. C'est l'esprit de la provocation qui mène le bal. Le texte inaugural de QQ donne un peu le ton. Les revues dites culturelles, dites québécoises, tiennent règle générale des propos d'une platitude plate. Afin d'éviter une seconde censure, je voudrais préciser que pour contourner la platitude inhérente aux revues dites culturelles, de près ou de loin, on a tenté de rendre la nôtre, qui c'est ça, aussi illisible que possible. Et c'était vraiment une volonté d'être illisible, juste pour vous dire, moi, pour que je n'ai pas l'air de faire une erreur, j'ai mis page 5 et 7, mais la page 7 vient avant la page 5 dans la revue. Donc, c'est un exemple de livre que pouvaient publier les éditions QQ. Les éditions QQ sont créées en 1974. Ils vont prolonger le travail de transgression textuelle de la revue QQ. La forme traditionnelle du livre est vraiment remise en question, parfois jusqu'à la déconstruction, comme on peut le voir donc, dans ce livre objet de Claude Beausoleil. Il n'y a pas de texte. Le livre, c'est le carton d'allumettes. Il y a aussi les éditions de l'œuf qui vont aussi explorer les limites du livre. Non. Il y a aussi Pauline Harvey qui publie un recueil qui s'appelle Ta dactylo va taper. Dans la collection Mium Mium, c'est vraiment un jeu, elle s'amuse avec les sons, tout simplement, et elle réduit vraiment la poésie à sa plus simple expression, c'est-à-dire c'est du rythme, tout simplement. Quand je lisais le recueil, je trouvais ça un peu étrange, mais quand j'ai écouté l'extrait de sa performance à la Nuit de la Poésie 80, là, j'ai vraiment senti le rythme. Il faut entendre. C'est la poésie qu'on doit entendre. Et je vous en fais entendre un extrait. Et au passage, je vous fais noter je ne sais pas exactement la citation, quelque chose comme le nationalisme, c'est la mort. Mais en tout cas, au passage, elle égratigne aussi la tradition, la poésie du pays. Pardon.
Poésie, rythme.
Ta dactylo va taper, attention, ton taxi va t'appeler. Viens-tu ton tapis, ton ami contacté, attention, ton taxi va t'appeler. Viens-tu ton tapis, attention, ton ami va taper, ton taxi va t'appeler. Viens-tu ton taxi va t'appeler, tu contactes un ami, attention. Ta dactylo va taper. Attention, tu contactes un ami. Attention, tu contactes un ami. Va taper, attention, ton taxi va t'appeler. Tu viens sur ton tapis, ton ami contacté, attention, ton taxi va t'appeler. Tu viens sur ton tapis, attention. Ton ami va taper, ton taxi va t'appeler. Le trip nationaliste, un trip de mort, un trip de tragédie. Tu viens sur ton tapis, attention, ton ami va taper, ton taxi va t'appeler. Tu viens sur ton tapis, ton taxi va t'appeler, tu contactes ton ami, attention. Ta dactylo va taper.
Une des découvertes de l'exposition, ça a été la collection de revues marginales, la collection patrimoniale de BANQ. De 68 à 75, plusieurs revues indépendantes et marginales vont voir le jour, soit qu'elles seront de facture extrêmement simple, certaines vont être plus sophistiquées. Ces publications vont créer des communautés d'esprit et aussi vont favoriser le sentiment d'appartenance de plusieurs groupes de jeunes. Elles vont servir à diffuser évidemment leurs valeurs, leurs préoccupations et vont chercher à afficher de nouveaux modes d'être au monde. La diversité des points de vue de ces revues, je pense, vraiment témoigne de la diversité de la contre-culture. On peut pas avoir ces revues vraiment. Moi, j'avais des fois le cliché de sexe, drogue et rock'n'roll pour la contre-culture, mais là, on voit qu'il y a vraiment tout un volet aussi politique qui est très important et qui est présent dans les revues. La revue, la censure, la caricature sur la censure, c'est la revue Sexus. Et donc, à côté, c'est le premier numéro de la revue Alléchier. C'est la libération sexuelle qui va être au cœur du projet de la revue Sexus, qui est créée en 67, qui dure un an. Cette revue-là n'hésitera pas à aborder des sujets qui sont encore tabous à l'époque. L'avortement, le divorce sont tabous. Si l'époque est à la révolution des mentalités, il y a quand même encore énormément de censure au Québec. Et l'escouade de la moralité de Montréal va saisir plusieurs de ces publications-là, dont la revue Sexus, parce que plusieurs personnes la jugent immorale. Et Yvan Mornard, qui est son directeur et son éditeur, pour se venger, si on veut, en tout cas comme protestation, va créer la revue Alléchier après la saisie de Sexus. C'est vraiment un pied de nez. Et il présente comme ça. Et Alléchier va durer l'espace de deux numéros. Il y a aussi le journal La Claque, qui est créé en 70, il n'y aura qu'un seul numéro de La Claque. C'est un journal d'information sociale et politique qui s'inspire des publications marginales américaines comme le Chicago Seed ou le journal des Black Panthers. C'est La Claque, donc, va être aussi embêtée par les policiers. En pleine crise d'octobre, les policiers vont saisir les numéros, vont saccager les bureaux. Donc, l'équipe qui a décidé de rester anonyme, d'ailleurs, pour pas avoir d'autres représailles, a décidé de détruire la maquette du second numéro qui devait sortir peu après le début de la crise d'octobre. Alors, tout ce qui reste, c'est ce numéro. Là, on le voit pas, mais il y a le fameux profil du patriote sur la page couverture. D'autres publications importantes, il y a la revue Logos, qui est une revue anglophone qui dure de 67 à 73. C'est la première tentative de presse underground à Montréal, semble-t-il. Et le journal voit le jour sur le boulevard Saint-Laurent en octobre 67. Les cinq premiers numéros sont bilingues, mais ensuite l'équipe va décider de ne faire qu'une publication en anglais. Mais l'équipe francophone va prendre le relais, l'espace de deux numéros, avec le journal Le Voyage. Ce sera le pendant francophone de Logos. Comme plusieurs publications contestataires de l'époque, évidemment, Logos va avoir maille à partir avec la censure. Je ne sais pas c'est en quelle année, c'est 69, je crois, qu'ils vont publier cette parodie de la page couverture de Gazette qui annonce que le maire Drapeau a été assassiné par un hippie complètement défoncé. Et c'est ce qui va faire que le numéro, le gosse va être saisi à plusieurs reprises, mais ce numéro-là particulièrement va être saisi. On peut pas ne pas parler de Mainmise, qui est quand même la publication phare de la contre-culture, qui est lancée en 70 et qui fait vraiment écho à la contre-culture américaine. Elle va accueillir dans ses pages des textes majeurs de la contre-culture américaine. L'équipe va traduire les textes. On va publier plusieurs bandes dessinées aussi du BDiste américain Robert Crumb. Mais Mise n'a rien d'une publication confidentielle. On dit que son tirage aurait atteint 26 000 exemplaires en 1973, ce qui est énorme quand même. Là, on ne sait plus, une publication marginale. La revue va aussi beaucoup faire pour l'avancement de la cause homosexuelle. Alors, je vous ai transcrit le texte inaugural de la revue. Le texte est très long, c'est un extrait. Ça montre encore là l'esprit de l'équipe. Mémise est d'abord et avant tout une revue d'information. Nous ne sommes pour ou contre rien dans le cadre de cet organe. Nous tâcherons simplement de publier les textes nécessaires pour que chacun puisse choisir ce qu'il veut être en connaissance de cause. Cela ne veut pas dire que nous sommes neutres. La neutralité, c'est comme l'objectivité, ça n'existe pas. Notre but, c'est l'utopie. Et selon nos auteurs, l'utopie est pour demain. Au Québec, l'utopie prend un visage particulier. Ce visage-là, nous l'avons découvert en faisant une enquête. La voici. Question: qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la vie? La drogue, la pornographie, la violence, la musique rock et l'utopie. Et ce seront les grandes lignes que se propose d'explorer, évidemment, Mémise. Mais c'est justement cet hédonisme et l'individualisme qu'on peut retrouver quand même dans Mémise qui va dénoncer Patrick Strahan. À ses yeux, la revue est pas assez politique ou révolutionnaire. Pour Strahan, la critique de la vie quotidienne, qui était fondamentale dans son projet, devait être combinée à une pensée politique et à une critique de la société capitaliste. Et en tout cas, pour lui, Mémise passait un peu à côté, malgré que c'était une revue qui tâchait de faire avancer les mentalités. Là. Alors, pour terminer, je voulais revenir sur la contre-culture, ce que je disais au départ. La contre-culture, je pense qu'elle est toujours vivante d'une autre façon. On peut, si ça vous intéresse, ça existe toujours. Vous pouvez, par exemple, aller au Festival Voix d'Amérique qui commence dans la semaine prochaine, je crois. Il y a là une culture, une contre-culture vivante. Les éditions Rodrigol, Loi de Cravant, par exemple, il y a vraiment encore toute c'est souvent en poésie, toute une littérature contestataire. Alors, je voulais pas qu'il y ait de nostalgie, c'est encore possible aujourd'hui, mais dans d'autres mots. Alors, j'attends vos questions. Merci. Je pense que c'est 68, ce numéro-là, mais de mémoire, je ne sais pas. Et dans l'expo, en tout cas, si jamais vous voulez vraiment la date précise. Oui? Pardon, attends, il y a deux questions. Ouais, ça, je t'avoue que ça me dit. Non, j'en ai pas parlé, mais je pense que c'était... Je l'ai vu passer, mais j'ai pas cherché plus. Je pense que c'était des articles de Mémis qui ont réuni, c'est possible. Mais je suis pas sûre, il me semble que c'était Georges Cal qui avait fait la...
C'est un type qui s'appelait La Mère Michel, puis après ça, il a fait le livre de cuisine végétarienne.
Oui. Oui. Ouais, je ne connais pas. Okay. Je peux pas répondre à votre question.
Peut-être de voir, puis ceux qui ont allé voir, c'est souvent ça que c'était gratuit. Parallèlement à ça, il y avait aussi, je ne sais pas si vous l'avez mentionné ou non, le Woodstock officiel, Woodstock Exposition dans le nouveau Maison à Star, à côté de Festival de Gaz, de la Sainte-Catherine, de LTD. Je ne sais pas si vous connaissez au premier étape.
Oui, je peux aller voir. C'était une exposition de quoi?
Woodstock,
oui.
En 69, je pense.
Oui, oui, oui.
Et c'était intéressant, il y avait une conférence avec la photo. Il y avait une photographe officielle, j'ai oublié son nom, c'était qui avait un livre avant. Par exemple, moi, j'avais parlé à cette époque, en 76, je viens d'une autre culture que la Hongrie. J'ai toujours vu ça un peu comme, pour ceux qui ont. Qui est beaucoup de queue, vous savez un peu comme c'est tout un désordre, tout le monde. Et puis il a bien expliqué que c'était pas ça, peut-être ça l'air maintenant. Et justement, une question par rapport à toute cette contre-culture que est-ce que, à part la loi civile pour les Afro-Américains, tout ça, la loi de femme, les homosexuels, par exemple, maintenant, où souvent on a eu confiance. En tout cas, moi, personnellement, que lorsque Obama est devenu président, il y a à peu près plus de 2 ans, que ça va changer, ça va sauver là, les jeunes, tout ça. Toujours une espérance un peu plus ou moins. Est-ce que ça a beaucoup changé la perception ou, par exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant en Maghreb aussi, voyez, qu'est-ce que j'ai noté la manifestation, tout ça, s'il y a beaucoup de confiance, à un moment donné, ça reste finalement. Je veux dire, ça ne change pas. Tellement, voyez-vous le côté humanitaire, tout ça, je ne sais pas si c'est une question.
je ne saurais pas quoi vous répondre.
Finalement, est-ce que vous êtes plus heureux avec tout ce qui est arrivé tout à l'heure
Ah ben non, mais non, je ne pense pas, c'est le propre des utopies. Mais c'est ça qui est beau aussi dans les utopies, c'est de chercher, d'espérer autre chose, des changements. Et je pense que la contre-culture a quand même apporté... Les mentalités ont changé depuis les années 60. C'est fait, on peut pas nier les changements. On n'a pas... Le capitalisme n'est pas tombé. Tous les rêves... Les multiples rêves de la jeunesse des années 60-70 ne sont pas concrétisés. Mais il y en aura d'autres qui feront avancer. C'est ça. Pour moi, c'est le propre de l'utopie. C'est pour ça que les cultures marginales, les cultures d'opposition, qu'elles soient politiques ou vraiment artistiques ou les deux, vont continuer. Et tant qu'il y aura de la vie, il y aura de l'opposition et c'est tant mieux. Oui. Ben, je pense peut-être qu'une exposition comme ça va permettre aussi de publicité, de dire ça nous intéresse, on veut des archives aussi. Ben, je ne sais pas si les archives sont si nombreuses, peut-être que...
Si vous prenez par exemple des journaux étudiants, tout le monde se sert. Mais ils ont une certaine disposition.
Ben, espérons qu'en tout cas, que les gens, ça va sensibiliser, que les expositions, c'est aussi ça, le but, c'est de sensibiliser les gens à la valeur des archives, puis à la richesse des archives et à la mission de BNQ, qui est de préserver aussi le patrimoine québécois. Si vous connaissez des gens qui ont des archives, dites-leur qu'on est intéressé. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui? Par rapport encore avec Maëlys, je me demandais si la bibliothèque avait conservé les archives, avait conservé les numéros, les premiers numéros de Maëlys quand c'était distribué. Après ça, c'est devenu des livres.
Oui, toute la collection de revues est quand même, pour Maëlys, est complète. Puis on a beaucoup de revues marginales. Ça, c'était la découverte quand j'ai travaillé sur l'exposition. Mais il y a sûrement plein de publications, justement, des publications étudiantes. Parce que même si le dépôt légal existait, c'était... Oui, parce qu'il n'y avait pas nécessairement la volonté de donner à une grande institution, puisque... Oui. Oui. Mais ça... alors là, c'est plus l'histoire sociale. J'avais pas de document pour documenter ça, mais c'est sûr que c'est un phénomène important.
C'est la question qu'on n'a pas compris, par exemple.
Sur les communes.
Ah, les communes, OK.
Merci.